Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
À toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier Burette. Et donc ce soir, je vous emmène avec moi donc pour une petite promenade autour d'un personnage assez méconnu et qui a consacré une très large partie de sa courte existence à s'intéresser d'une part au Qatar, cette religion mystérieuse du XIIIe siècle, enfin, en tout cas qui disparaît à la fin du XIIIe siècle, enfin, au milieu du XIIIe siècle, on va le voir tout à l'heure, et surtout bien sûr à la recherche de ce mystique Graal. Il s'agit évidemment de l'allemand Otto Rahn, dont on va parler ce soir, Otto Rahn, qui, notamment au travers de son ouvrage « Croisade contre le Graal », va nous replonger dans cette époque que l'on va évoquer donc ensemble lors de cette émission. Alors, on va aborder tout cela en cinq points. D'une part, on va revenir quand même sur cette question du Graal et pourquoi est-ce que cette coupe mystérieuse qui aurait recueilli le sang du Christ aurait fini par se retrouver pour une raison ou une autre dans la région des Pyrénées. On rappellera également, deuxième point, la question de ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle plutôt les artefacts religieux bibliques, pour voir un peu ce que c'est quand même, parce que c'est quand même d'un thème archéologique important. On reprendra ensuite en troisième point le contexte de la question des cathares, qu'est-ce que c'est que cette croisade contre les albigeois, qu'est-ce que c'est que cette religion. Ensuite, on se concentrera sur l'homme, sur Otto Rahn, qui a-t-il été, qu'a-t-il voulu faire, en tout cas, tenter de découvrir. Et ensuite, on terminera avec un petit topo sur son ouvrage, qui est assez connu, puisqu'il a été republié plusieurs fois, et la dernière fois en 2015, qui s'appelle « Croisade contre le Graal, grandeur et chute des albigeois ». Alors, pour commencer toute cette histoire, évidemment, il faut repartir la personne centrale de ce soir, donc Otto Rahn. Alors, né le 18 février 1904, mort le 13 mars 1939, les sources, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de choses sur lui, en tout cas en ce qui concerne vraiment des fiches objectives, indiquant donc que c'est un écrivain archéologue allemand, né le 18 février 1904, et mort en mars 1930. Alors, il était l'auteur de deux ouvrages, La croisade contre le Graal, paru en 1933, et La cour de Lucifer en 1937. Alors, il y a deux choses que l'on peut indiquer tout de suite. Il a été manifestement un des personnages qui ont inspiré, et on le lit un peu partout, les auteurs George Lucas, Steven Spielberg, dans le personnage à décrire de Indiana Jones, c'est ce que l'on dit. Et puis, ses écrits, ses travaux sur le Graal, sur toute cette mystique, ont profondément été récupéré, hein, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, par les nazis, hein, puisque vous voyez bien ces dates, hein, il meurt le 13 mars 39, en fait, il est mort soit d'un accident, soit suicidé, on ne sait pas trop, hein, mais lui-même sera totalement versé à partir de 1933 dans l'idéologie nazie, hein, et dans surtout l'ordre des SS, hein, dont on aura l'occasion de reparler la prochaine fois d'ailleurs, dont le chef Heinrich Himmler avait entamé effectivement une véritable recherche au niveau mondial d'un certain nombre d'artefacts, dont des artefacts qui étaient censés donner une certaine puissance au régime nazi, comme le croyait-on, le Graal, hein, ou encore la Sainte Lance, donc la lance de Longinus dont on reparlera. Donc c'est une histoire assez fascinante puisqu'il s'agit d'un jeune chercheur qui bon après sombrera dans évidemment les errements de son époque, hein, d'une part, et puis deuxièmement il y a tout cet aspect effectivement extrêmement intéressant des recherches qu'il a pu mener, hein, pour essayer de localiser, hein, les lieux ou le lieu supposé de cette légende du Graal, et de cette fameuse coupe mystérieuse censée donner la vie éternelle, je le précise, située qui aurait été située dans les Pyrénées. Alors, voilà ce que l'on peut dire en guise d'introduction. Hein. Les cathares, dans cette religion dont on va parler tout à l'heure, qui étaient principalement installés, en tout cas pour la période que l'on connaît le plus, qui est celle du XIIIe siècle, de la fameuse croisade contre les Albigeois, dont on va reparler, eh bien, pour cette période, effectivement, tels que nous les connaissons, tels que nous avons les informations au niveau des sources, eh bien, la localisation, hein, de ce que les croisés appelleront l'hérésie cathare est principalement située dans le sud-ouest, hein, sud-ouest de la France de l'époque, du royaume de France de l'époque, qui n'était pas encore tout à fait le royaume de France qu'on connaît, on le connaîtra plus tard, hein, mais dans un espèce de grand rectangle que l'on pourrait situer avec au nord Toulouse, hein, et puis ensuite se répartissant entre les Pyrénées Atlantiques et les Pyrénées Orientaux. Hein, voilà. Et ça, tout ça, ça donne effectivement la région, hein, où se trouve cette religion des cathares. Alors, vous me direz, on parle des cathares, on parle du Graal, et puis on parle aussi, bien sûr, du vieux royaume visigothique du haut Moyen-Âge, qui se trouvait aussi dans la région. Tout ça fait beaucoup de choses qui, dans les recherches d'Autorane, mais également dans celles qui seront menées après, donnent des points de convergence, en effet, sur cette fameuse affaire du Graal. Alors, à l'origine, hein, ça nous renvoie effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, au film d'aventure qui ont pu prendre leurs racines au niveau des scénarios dans tout cela, hein, on parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, bah oui, puisque à l'origine de tout cela, il y a la fameuse question des fameux chercheurs, archéologues, aventuriers, hein, qui se prennent de passion pour la quête et la recherche des artefacts religieux. Quand je dis artefacts, mot dont je parle, que j'utilise depuis tout à l'heure, l'artefact, c'est évidemment un objet, hein, archéologique qui a eu une symbolique très importante durant les périodes anciennes bibliques, hein, le plus souvent. Hein. Pour aussi parler de reliques, hein, les reliques, hein, dans le commerce est très important parce que c'est un signe de puissance que l'on possédait au Moyen Âge. Vous avez à l'esprit, par exemple, des clous de la vraie croix, les épines, hein, de la couronne du Christ. Hein. Toutes ces choses-là, évidemment, forment une foule de choses, hein, d'objets retrouvés non retrouvés ou faux, hein, parce que bien sûr, il faut faire le tri dans tout cela, durant différentes périodes de l'histoire et conférant un pouvoir, si ce n'est symbolique, hein, au prince qui le possédait à l'époque. Hein. Je rappelle qu'à ce titre, la couronne d'épines, hein, avait été, si ma mémoire est bonne, offerte ou récupérée en tout cas par Saint-Louis, hein, et que elle est l'objectif de la conserver en partie dans la Sainte-Chapelle, si ce n'est dans la cathédrale Notre-Dame, ce qui d'ailleurs est toujours le cas à l'heure actuelle. Est-ce qu'il s'agit de véritables épines de la couronne du Christ, ça, c'est une autre question. Alors, ces artefacts religieux, donc, sont, pour les principaux d'entre eux, hein, donc, dans l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance. Hein, l'Arche d'Alliance, on sait très bien ce que c'est, il s'agissait de ce coffre sacré, hein, transporté par les Hébreux, alors encore peuple errant, quittant l'Égypte et se dirigeant vers ce qui serait plus tard la Terre Sainte, hein, et dans lequel, Moïse, voyant que le peuple ne respecterait pas nécessairement les 10 commandements, brise hein, ces fameux commandements et on aurait mis les restes de ces fameuses tables de la loi comportant les 10 commandements dans cette arche d'alliance. En fait, c'est surtout un symbole d'une puissance, hein, on le voit, alors je reviens encore sur Indiana Jones, hein, on le voit très bien, l'arche d'alliance comme étant en fait une espèce de, d'instrument de puissance symbolique, mais pourquoi pas peut-être aussi de puissance mystique, de puissance physique peut-être détenue par les Hébreux. Donc c'est évidemment un grand mythe, d'autant plus que cette arche est décrite dans l'Ancien Testament de façon très, très détaillée, qu'on la retrouve plein de fois dans différents documents iconographiques. Hein. Et là, bien sûr, il s'agit d'une des fameuses quêtes, hein, et on sait que, bon, eh bien, en tout cas, au début de l'ère chrétienne, au premier siècle de notre ère, quand l'empereur Titus hein, va piller Jérusalem, hein, eh bien, il va vider le temple, hein, le grand temple, donc, le temple, il s'agit du deuxième, puisque le premier avait déjà été détruit, donc le temple de Salomon hein, est détruit, hein, et ensuite le temple d'Hérode, hein, donc celui-là reconstruit, mais comportant toujours les mêmes artefacts, eh bien, que on voit très bien représenté à Rome, sur l'arc de triomphe de Titus, eh bien, les soldats, de l'empereur, hein, vidant de ses artefacts sacrés le temple et ramenant tout ça à Rome, donc présence de l'Arche d'Alliance peut-être dans le trésor romain, présence peut-être aussi de la menorah, ça on la voit très distinctement, c'est cette fameuse immense lampe, donc, c'est-à-dire en fait il s'agit d'un chandelier, hein, on appelle ça une lampe, mais c'est un chandelier en or massif, hein, transporté aussi par les Romains. Donc, sans doute, évidemment, déjà, première étape, récupération de beaucoup de choses à Jérusalem, par les Romains du 1er siècle, et pourquoi pas aussi des objets du Nouveau Testament, comme le Graal, cette fameuse coupe mystérieuse, hein, le Graal dont je vous rappelle qu'on en a parlé encore récemment, qui est revendiqué comme étant détenu par un certain nombre d'églises, notamment dans la région, justement, plutôt du nord de l'Espagne, ce qui nous ramène encore aux Pyrénées. Et puis aussi la lance de Longinus. Alors Longinus, qu'est-ce que c'est? La lance de Longinus, c'est ce centurion romain qui, au moment de la passion du Christ sur la croix, sur le Golgotha, hein, donc d'une part, bon, on va recueillir effectivement de la plaie du Christ le sang dans la fameuse coupe du Graal, mais la lance de Longinus, c'est tout simplement cette lance lancée, donc percée, lancé contre le Christ par ce centurion et donc qui aurait transpercé donc le Christ et qui est sûr aussi un objet sacré, celle-ci, la lance originelle, paraît-il, telle qu'une relique, est conservée dans la Schatzkammer à Vienne, c'est-à-dire la chambre du trésor, comportant tous les trésors de l'Empire d'Autriche-Hongrie, de l'Empire d'Autriche et aussi du Saint-Empire romain germanique. Alors est-ce qu'il s'agit de la vraie lance? Bien sûr, là aussi, il y a des tergiversations, c'est comme l'histoire du Saint-Suaire, je n'y reviens pas non plus, on n'a pas évidemment nécessairement le temps de parler de tout cela ce soir, mais voilà donc un peu comment ça se passe par les vicissitudes de l'histoire. Puis voilà que, bien oui, en 410, hein, à Rome, eh bien, du 24 au 27 août 410 a lieu, hein, c'est la chute de l'Empire romain, on est au début du 5e siècle, l'Empire est devenu chrétien entre-temps, mais voilà que eh bien, la partie occidentale de l'Empire s'effondre hein, en quelques décennies sous le coup des invasions barbares. Hein, c'est bien connu, la partie orientale subsistera pendant un peu plus de 1000 ans, hein, on le sait, il s'agit de l'Empire romain d'Orient, le fameux Empire byzantin. Mais en 410, donc Alaric, roi des Visigoths, eh bien, va piller tout ce qu'il peut à Rome. C'est la première fois que le pillage a lieu, c'est pour ça que ça nous intéresse, parce que donc il aurait récupéré hein, le fameux trésor conservé, hein, on le sait, sur le Forum romain, dans le fameux temple de Saturne. Hein, parce que c'est là que se trouvaient donc, tous les trésors hein, de la République, puis ensuite de l'Empire, hein, conservés, une sorte de coffre-fort, hein, si on peut dire, de l'Antiquité. Et Alaric va fonder hein, son puissant royaume visigothique hein, dans, évidemment, le sud-ouest. Et oui, et voilà pourquoi on nous parle des Pyrénées dans toute cette histoire, hein, dans les recherches de Haute-Orane, parce que c'est de ce grand royaume visigothique pyrénéen, hein, qui va durer le temps qu'il durera, il va pas durer très longtemps, bien moins longtemps que l'Empire romain, bien sûr, mais on imagine mal Alaric partir, hein, avec évidemment autre chose que ses trésors. Hein. Donc, bien sûr, dans la région, alors dans quelle ville, on n'en sait rien, bon, les tenants de la théorie de Rennes-le-Château, c'est-à-dire de la ville de Redae, R-E-D-H-A-E-A-E, disent que ce fut une des capitales de cet empire visigothique, qui aurait donc eu des trésors, fameuse histoire de la Bessonnière, et là je ne le développe pas parce que nous en reparlerons dans une émission que nous avons toujours en tête et prévue avec Cédric, et qui se fera un jour de toute façon. Ou alors à Carcassonne, bien sûr, hein, enfin on a quand même tout un tas de villes extrêmement intéressantes, hein, et ce dépôt de trésors visigothiques aurait pu s'y trouver, c'est-à-dire, entre autres, bien sûr, le Graal, mais pourquoi pas aussi l'Arche d'Alliance, pourquoi pas aussi tout un tas d'objets donc récupérés dans la Jérusalem du 1er siècle hein, par les Romains lors de la définitivement soumission hein, de cette province, de ce qui est devenu une province. Alors ensuite, troisième chose, hein, au-dessus de tout cela, voici les Cathares qui viennent se greffer là-dessus. Pourquoi ? Bah parce que dans ce Moyen Âge occidental, hein, le christianisme qui a d'abord été implanté par l'Empire, hein, l'Empire romain qui est devenu chrétien, ne l'oublions pas, hein, au IVe siècle, eh bien dans ce Ve siècle naissant, et ensuite dans tout ce qui va former le Haut Moyen Âge, eh bien bien sûr les conciles vont se multiplier, et le dogme hein, de la religion chrétienne telle que nous la connaissons nous maintenant, hein, principalement divisé en trois, hein, avec historiquement donc évidemment la religion orthodoxe elle-même, le catholicisme et enfin le protestantisme hein, et toutes ces autres variantes, ben, tout ça n'existait pas encore. Et donc vont se développer hein, dans ce haut Moyen Âge occidental tout un tas d'hérésies, de ce qu'on va appeler des hérésies, c'est-à-dire le nestorianisme, l'arianisme, tout un tas de pratiques en fait du christianisme, du rapport du chrétien avec Dieu hein, et avec Jésus, qui seront toutes différentes hein, et qui vont se normaliser, mais bien après. Hein, et bien souvent, on l'a bien compris comme d'habitude hein, dans l'histoire, sous le coup hein, de bûcher, de fer, de feu hein, et de croisades, comme on en parlera tout à l'heure, puisque cette croisade contre les Albigeois fut bien sûr une tragédie absolument épouvantable, qui d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, plus de 1000 ans, bien plus de 1000 ans, presque 1000 ans après, hein, à 2 siècles près, marque encore complètement les esprits, quoi, 800 ans près. Hein, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, Ces cathares, qu'est-ce que c'est? Bah, à l'origine, il s'agit encore une fois d'une de ces fameuses hérésies. Ça prend ses sources en fait dans le Moyen Âge oriental et dans les marches de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire dans cette région qu'on appelle la Bulgarie, avec une foi particulière développée par ce qu'on appellera les Bogomiles. Et puis, là, on est aux alentours de 900, donc le début du Xe siècle. Et cela va se développer et pas mal prospérer dans les Pyrénées, donc de 900 jusqu'à 1244. 1244, c'est une année connue, mars 1244, parce que bah, c'est en mars 1244 que le dernier bastion des cathares donc va tomber sous le coup des croisés, hein. Alors quand on parle de croisés, là il s'agit plutôt des armées, hein, des armées capétiennes venues du nord, venues de Paris, hein, pour écraser ce que l'on appelait l'hérésie cathare et tout normaliser dans la religion chrétienne future catholique des rois, hein, bien sûr. Et 1244, bah, c'est le dernier combat des derniers cathares qui se trouvent réfugiés, et là retenez-le bien, ça nous intéresse pour ce soir, retenez-le bien, dans le fameux Pog, le fameux château de Montségur, hein, donc qui se trouve évidemment dans les Pyrénées, hein, où les derniers cathares se sont réfugiés, ont résisté tant qu'ils ont pu aux croisés, et ont fini donc non seulement par être pris, capturés, et pour la plupart d'entre eux, tout simplement jetés dans le feu sur un bûcher. Hein, voilà, après avoir abjuré hein, leur foi cathare. Et toutes les recherches, justement, tout le livre, et on en parlera dans quelques instants, de cette croisade contre le Graal, écrite par Otto Hahn, va être de faire le lien, précisément, hein, entre ce legs archéologique wisigothique, hein, et les cathares, voir comment ceux-ci auraient pu être les dépositaires, hein, de cette découverte, hein, de ce trésor wisigothique. Le royaume des Wisigoths n'existe plus, évidemment, à ce moment-là, hein, et comment est-ce que ça aurait pu être eux qui en auraient été les transmetteurs et qui auraient caché, hein, ce trésor dans des grottes, hein, de la région. Et justement, j'ai mis volontairement une photo sur ma page Facebook, puisqu'on interagit pas mal avec Facebook. Alors n'oubliez pas que cette émission, hein, évidemment, est diffusée en direct ce soir, hein, le 25 mai, mais qu'elle est diffusée en podcast et que bien sûr je peux répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette thématique de ce soir, autant que vous le voulez, que vous le souhaitez, hein, bien sûr. Alors, à l'origine, qu'est-ce que c'est que les cathares? Bah, c'est avant tout un peuple extrêmement ascétique, hein, qui veut un rapport totalement dépouillé entre l'homme et le christianisme et la religion et Dieu, hein, un monde qui pour le cathare est divisé entre le bien et le mal, hein, je ne redétaille pas, on avait fait déjà pas mal d'émissions sur cette question, et puis avec un seul sacrement, hein, qu'on appelle le consolament, hein, il s'agit d'une imposition des mains qui donc confère une espèce de, dit-on, baptême cathare, faisant passer donc la population du Cathare de bon chrétien par le consolament au statut de bon homme ou de bonne dame. Alors, il s'agit évidemment d'un contre-pouvoir, et c'est surtout pour ça, comme je l'ai déjà dit dans les émissions que j'avais faites déjà sur cette thématique, c'est surtout le fait que cela devient un contre-pouvoir à celui de l'Église, cette Église du Moyen-Âge, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, qui est en pleine phase d'implantation à cette époque-là, première chose, et deuxièmement, qui représente un incontestable pouvoir considérable, hein, temporel, hein, et notamment politique. Rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, ce développement de cette philosophie cathare, de cette religion relativement libre, on le voit, sans vraiment de contraintes qui n'a rien à voir avec un clergé catholique, etc., eh bien, va devenir un enjeu politique, parce que jusqu'au comte de Toulouse, hein, qui sera obligé d'abjurer à un moment donné sa conversion au catharisme, eh bien, va fédérer tous les politiques et tous les peuples de la région progressivement, et devenir tout simplement un contre-pouvoir. Hein. Et la période dont on parle, chers amis, ce soir, le XIIIe siècle, puisqu'il s'agit de 1244, pour la fin de la croisade contre les Albigeois, la prise de Montségur, c'est ni plus ni moins que le début de l'affirmation du pouvoir royal, hein, des Capétiens, et pas n'importe lesquels, hein, puisque sur cette époque-là, je vous le rappelle que cette période commence, hein, pour ce XIIIe siècle, avec le règne de Philippe Auguste, hein, ça n'est pas rien, c'est lui vraiment qui va mettre en place, hein, le cadrage, hein, pourrions-nous dire aujourd'hui, de la monarchie capétienne, et ce qui va tout simplement structurer le royaume de France et la France tout court, hein, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Et ces dates de règne sont quand même en 180-1223, très long règne, hein, pour Philippe Auguste. Philippe Auguste fera la cinquième croisade, hein, de 1217 à 1221. Alors ceci, c'est juste la croisade évidemment en Terre Sainte, hein. Je vous rappelle rapidement que les croisades sont nées, hein, à la fin du XIe siècle, entre 1095 et 1099 pour la première, parce que tout simplement l'Empire byzantin n'était plus capable de maintenir la sécurité des routes, hein, et de la visite des lieux saints, donc en Terre Sainte à Jérusalem, que l'émergence de l'islam a fait que toutes ces régions sont passées sous contrôle musulman, hein, si elle est plus tard l'immense empire turc, mais ça c'est un peu plus tard, et donc Byzance, hein, va au XIe siècle appeler, c'est de là que naît la question de la croisade, va appeler les princes occidentaux, les rois de la chrétienté occidentale au secours, pour envoyer une armée de secours, hein, des mercenaires, pour les aider à se débarrasser des infidèles de l'époque. Mais, comme vous le savez, le christianisme occidental va en profiter au contraire pour s'implanter dans la région, squeezer, si on peut dire, comment dire aujourd'hui, le basileus, l'empereur byzantin de l'époque, et établir les fameux états latins qui vont vivre ou survivre, si on peut dire, pendant à peu près 2 siècles dans la Terre Sainte, hein, ces fameux états latins, qui via l'île de Chypre notamment, hein, qui sera une bastion importante, hein, vont donc prendre le contrôle de toute la région, pendant à peu près, donc je disais, 1 siècle ou 2. Tout ça ne durera pas très longtemps, ça va donner quand même 7 ou 8 croisades, hein, en tout, d'une part pour prendre Jérusalem, ensuite pour tenter de reprendre Jérusalem, puis ensuite pour essayer de sauver ce qui reste, et puis finalement, on le sait, ce sera la fin définitive des croisades à la fin du XIIIe siècle. Donc, première importance, donc c'est Philippe Auguste, début donc de la période, et puis ça se termine avec le fameux Saint Louis, Louis IX, hein, dont les dates de règne sont 1226-1270, hein, et de son prédécesseur Louis VIII, 1223-1226. Alors il s'agit, ces trois monarques-là jonchent complètement toute la période, hein, et c'est donc durant cette période-là que, en marge, hein, des croisades dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de la 5e, 1217-1221 avec Philippe Auguste, de la 7e, 1246-1254, et la 8e, 1205-1272, la 8e croisade, on notera que Louis IX fera 2 croisades, hein, Saint Louis. Hein. D'ailleurs, d'où sa canonisation, puisque un roi qui devait faire 2 croisades durant cette période-là, évidemment, c'était tout à fait une rareté, je crois, à ma connaissance, qu'il s'agit du seul. Mais néanmoins, en marge de tout cela, eh bien, il faut normaliser, si on peut dire, ce qui se passe dans le sud-ouest de la France, hein, du royaume, hein, et donc écraser, hein, cette fameuse cathare albigeoise. Pourquoi Albi? Parce que Albi est une des villes de la région. Il y a Béziers, il y a Albi, il y a Toulouse, hein, ça sont les Carcassonne, c'est les grandes villes de la région qui seront toutes évidemment assiégées et épouvantablement mises à sac par les fameux croisés anti-albigeois, hein, qui vont normaliser la région, comme je l'ai dit tout à l'heure, à coups de glaive et à coups de bûcher. Hein, ça se passe dans la violence, hein, une violence absolument, on pourrait presque parler même, pourquoi pas, d'une guerre civile. Hein, c'est quelque chose qui va durer très longtemps, et avec les moyens de l'époque, de torture, etc., donc je vous passe ces détails. Alors voilà pourquoi ces trois éléments dont je vous parlais tout à l'heure se mettent ici ensemble, parce que nous avons cette croisade contre les Albigeois, hein, qui commence en 1209, donc vraiment au début de la période. Hein, 1209, on est sous Philippe Auguste, hein, incontestablement, hein, et qui se terminera donc avec donc cette prise en mars 1244, hein, donc là sous son petit-fils Saint-Louis, hein, Louis IX, la prise donc du château de Montségur, hein, en mars 1244. Et ce qui va quand même marquer profondément, hein, le début, hein, pour vous donner un simple exemple, hein, de cette répression contre les cathares, bah c'est tout simplement le siège, hein, de la ville de Béziers, hein, dans le sud-ouest aussi, hein, au moment où les habitants tentent de se rendre, ou ne pas se rendre, ou qu'il y a des résistances, le chef des croisés, donc anti-albigeois de l'époque, aura cette phrase au moment où il va donner l'assaut finalement pour finir, hein, avec ce siège interminable de Béziers. Hein, il dira cette phrase qui est très célèbre et que tout le monde connaît encore aujourd'hui, hein, « Massacrez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Hein, » c'est-à-dire, en gros, ne faites pas le détail, « Exterminez la population, Béziers, 20 000 morts. » 20 000 morts en moyenne, hein, ça vous donne quand même une idée, même si on est dans les brumes lointaines du XIIIe siècle, hein, de la tuerie absolument effroyable que cela représente, même pour cette époque-là. Hein. Aujourd'hui, encore, 20 000 morts, extermination d'une ville, brûlée, rasée, population massacrée, ça nous laisse froid dans le dos. Et ben ça, c'est un seul petit épisode, hein, de cette croisade contre les Albigeois qui va quand même durer, hein, au rythme de l'époque, pas loin de 40 ans. Hein. C'est quand même absolument énorme. Alors voilà qui, tout cela, a fortement intéressé le jeune Otto Rahn, hein, cet Allemand, donc jeune Allemand né, je vous le rappelle, donc en 1904, qui donc petit va vivre évidemment la tragédie de la guerre de 14-18, hein, on rappellera suffisamment que c'est une tragédie des deux côtés, et puis qui va se passionner, jeune étudiant, dans les années 20, cette histoire tout à fait extraordinaire. Il y est venu il est venu vers la question du Graal et la question des cathares à cause d'une source allemande extrêmement connue, enfin connue pour les passionnés d'opéra surtout, hein, qui est un chroniqueur poète du XIIe siècle qui s'appelle Wolfram von Eschenbach. Alors ça s'écrit Eschenbach, ou Eschenbach, et va être une source très importante. Hein, nous, par exemple, ici, on a Chrétien de Troyes, on a des personnages comme ça pour ou Villehardouin, un peu plus tard, pour les grands chroniqueurs du Moyen-Âge. Ben, en Allemagne, il y a notamment Wolfram von Eschenbach, et qui va écrire donc un certain nombre de chroniques dans lesquelles il va raconter l'histoire des cathares, l'histoire également que dans la région, hein, on voit qu'il meurt quand même avant, hein, il meurt en 1220, avant donc la fin de l'épopée cathare, mais c'est lui qui va parler et d'expliquer que dans les Pyrénées, dans un château que l'on appelle Montsalva, eh bien, que se trouverait justement conservé dans une cachette la fameuse coupe du Saint Graal, et pour lequel il va envoyer un des fameux chevaliers de la table ronde. Vous savez très bien qui il s'agit de Parsifal, hein, Perceval hein, en français, Parsifal, Parsifal en allemand, hein, qui va entamer une quête hein, dans laquelle il va retrouver le Graal. Et là, on est dans la grande thématique de la rêverie médiévale, hein, de toutes ces grandes histoires, ces grandes chroniques qui traversent le siècle, les siècles médiévaux, c'est-à-dire l'histoire de Tristan et Isolde, l'histoire évidemment des chevaliers de la Table Ronde, la légende du roi Arthur, les mystères de la forêt de Brocéliande. Tout ça va nourrir l'esprit du jeune Otto Hahn qui va donc se passionner pour tout cela et partir hein, tout simplement dans la région. Hein, mener un certain nombre de campagnes de recherche cette région des Pyrénées afin donc de retrouver, ou le croit-il évidemment, bien sûr qu'il ne l'a pas retrouvé, de tenter de retrouver le fameux Graal, c'est-à-dire cette fameuse coupe hein, que le Christ, témoin de l'époque du Christ, est recueilli par Joseph d'Arimathie au moment du martyr du Christ sur la croix, et qui aurait contenu donc le sang du Christ et qui donnerait évidemment la vie éternelle à qui, d'une part, serait digne de récupérer cette coupe. Hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'où l'histoire de la quête du Graal et de Parsifal, hein, mais aussi arriverait simplement à trouver où elle peut se trouver. Alors bien sûr, là on entre de plein pied maintenant dans l'ouvrage hein, et les travaux donc ce jeune Otto Hahn. Présenté donc comme écrivain et archéologue, hein, et qui aura, sans ici aller dans plus de détails sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir, mais qui aura incontestablement donc une période des années 20 où il va mener ses recherches, hein, dont on va parler dans un instant, et puis ensuite une autre période qui va suivre où il va être découvert par le chef tout puissant de la SS, à savoir Heinrich Himmler, hein, qui va lire son premier ouvrage. Donc, qui s'appelle donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, Croisade contre le Graal. Et puis, ensuite, qui en publiera un autre qui s'appellera Dans la cour de Lucifer. Et là, dans les années 30, eh bien, il va être complètement, après 1933, récupéré, intégré dans la SS, pensant pouvoir continuer, bien sûr, ses recherches, mais en fait, rapidement instrumentalisé, hein, et ça, on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine, instrumentalisé par Himmler, par l'ordre noir de la SS, on développera dans la prochaine émission, afin évidemment de justifier ces recherches archéologiques le fameux pouvoir que les fameux artefacts pourraient donner, dont on avait parlé tout à l'heure, et en l'occurrence ici, le Graal, bien sûr. Alors, je poursuis ici notre propos. Je regarde néanmoins, je vous rappelle que des questions d'auditeurs peuvent être posées en direct. Je n'en vois pas, d'ailleurs je n'en ai pas vu du tout, mais vous pouvez, n'oubliez pas, le faire. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Toutefois, l'ouvrage lui-même, hein, qui nous intéresse ce soir, Croisade contre le Graal, Grandeur et chute des Albigeois, Donc, paru en 1934, réédité, je le ciel, en 2015 aux éditions du Camion Noir. Je vous recommande de l'acheter. Alors, c'est un ouvrage assez décousu. Je l'ai lu pour préparer cette émission, bien sûr, qui apparaît un peu sous une forme parfois très lyrique, sous forme parfois de notes, mais qui comporte, sur ses 325 pages, trois grandes parties. Hein. La première, donc, qui s'intitule Parsifal, évidemment, fait le lien entre la source, donc Wolfram von Eschenbach, hein, et la présence du Graal dans l'Ariège. Alors évidemment, par rapport au nom du château, du Pog, hein, du château, donc de Montségur, parce que évidemment, on pense que Montségur, hein, évidemment, Montségur, Montsalvat, écrit chez Wolfram von Eschenbach, on est très tenté, évidemment, de faire le lien, c'est-à-dire, oui, c'est la même chose, c'est Montségur. Bon. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de noms qui commencent par Mont dans la région, tant sur le versant espagnol, catalan des Pyrénées que de l'autre côté. Hein. Et d'ailleurs, on sait que Himmler, j'en ai reparlé, poursuivra même après le décès d'Otto Hahn ses recherches de façon frénétique dans la région pour essayer de remettre la main sur le fameux Graal. Hein. Bon, évidemment, il ne le trouvera jamais, tant mieux sans doute d'ailleurs pour nous tous. Donc, voilà pour la première partie de l'ouvrage, mais qui est très intéressante, puisque c'est une partie de réflexion hein, qui vraiment établit un lien donc entre la question du Graal, des cathares hein, et du texte d'origine donc de Wolfram von Eschenbach. La deuxième partie, elle, évidemment, concerne le Graal lui-même, explique ce que c'est, d'où vient-il, et comment, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, aurait-il pu se retrouver dans les Pyrénées, via, évidemment, une récupération à Rome, au 1er siècle de notre ère, probablement, et ensuite, sa récupération par les Visigoths, dans le Royaume, ensuite, expédition des Visigoths dans les Pyrénées, après le pillage de Rome en 410. On l'a vu ensemble. Et puis, troisième chose, eh ben, c'est un récit assez détaillé, assez lyrique, hein, troisième partie de l'ouvrage, sur la croisade elle-même, hein, et la liquidation des cathares, hein, qui détenaient le Graal. Alors, cette croisade contre les Albigeois aussi, on a dit, est-ce que ce n'avait pas été la volonté hein, du roi donc, de l'époque? Alors là, pour le coup, vers la fin et la prise du Pog, on est sous Saint-Louis, de récupérer, peut-être, de rechercher cet artefact et de le récupérer. Toujours est-il que c'est la troisième et dernière partie de l'ouvrage. Hein. Alors, on sait aussi que Otto Hahn a fait des recherches dans la région. Il a retrouvé, on l'a vu sur cette photo que j'ai mise sur Facebook, dans une grotte des lieux où s'étaient réfugiés les derniers cathares, notamment avec un pentagramme, un pentacle, ce qui est intéressant, puisqu'il y a une représentation évidemment de l'homme, donc une représentation mystique humaine, hein, dans laquelle d'ailleurs il se loge, hein, on le voit très bien dans la photographie. Il a donc trouvé incontestablement des choses extrêmement intéressantes dans ces grottes donc, que l'on situe du côté de Sabarthès, de Lombrive, hein, qu'il aurait exploré sur à peu près 12 kilomètres, mais sans jamais rien retrouver. Toujours est-il que l'on sait que quelques jours avant, et ça aussi c'est probablement comment dire, avéré, hein, mais que je précise toujours sur ces émissions, sur des périodes très lointaines, que je rappelle que nous sommes non pas dans de l'historiographie précise, hein, avec des archives, hein, telles qu'on pourrait les avoir pour l'histoire du XXe siècle, hein, ou du XIXe, hein, mais qu'on est dans le très lointain. Donc il n'y a pas d'archives, hein, si vous voulez, historiques pour le XIIIe siècle. Ce qu'on connaît, c'est des textes de chroniqueurs comme Wolfram von Eschenbach, c'est des fouilles archéologiques, c'est certains textes conservés, parvenus jusqu'à nous miraculeusement dans les monastères, des choses comme ça. Mais on n'a pas vraiment hein, de sources qui nous permettraient de reconstituer, par exemple, la croisade contre les Albigeois jour après jour. Il hein, faut quand même pas exagérer. Hein. Vrai, il faut quand même toujours avoir une certaine réserve. Et c'est mon rôle là, pour le coup, d'historien, que de le dire. Hein. Toujours est-il que voilà à peu près les faits. Et donc, que effectivement, la veille ou l'avant-veille de la prise définitive du château de Montségur, eh bien, quelques cathares auraient pu prendre la fuite et donc seraient allés cacher ce fameux trésor dans des grottes de la région. On ne sait pas trop, on n'a pas spécialement de détails, mais on sait aussi que cette région, particulièrement, hein, l'Ariège, bon, encore une fois, Limoux, enfin, Rennes-le-Château, enfin, toute cette région-là, Carcassonne, est une région extrêmement riche en histoire, et en histoire du Haut Moyen-Âge, et d'histoire absolument fascinante. Alors, l'intérêt, en guise de conclusion, hein, du propos de ce soir, c'est quand même peut-être de relancer. Il faudrait peut-être certainement faire un travail historique ou un travail biographique. Bien sûr, beaucoup de spécialistes de cette région-là ont pas mal écrit sur Autoragne, il y a quand même pas mal de choses sur Internet, hein, dans des blogs divers, bien sûr. Mais peut-être de reprendre dans une étude historique précise, une biographie d'Autoranne, peut-être. En tout cas, j'en ai pas à ma connaissance, je n'en connais pas qui existe, mais ce serait certainement intéressant, même s'il en existait une, peut-être d'en refaire une à l'heure actuelle, afin peut-être de reprendre ce dossier concernant la présence, en tout cas, d'un dépôt archéologique hautement symbolique, religieux, wisigothique, disons, dans les Pyrénées. Mais après, moi, je ne risquerai pas d'aller plus loin, parce que la question quand même de base à tout cela, hein, c'est peut-être de se demander si le Saint Graal a jamais existé. Hein. Autant l'Arche d'Alliance, vraiment, il y a comment dire, des sources historiques lourdes qui nous le montrent, hein, la Ménorah aussi, que la coupe du Graal reste quand même quelque chose de mystérieux, mais dans l'histoire, il y a eu des découvertes archéologiques qui étaient insoupçonnées. Hein, je vous rappellerai, et ce sera un peu pour conclure, que l'archéologue allemand, encore un Allemand, mais cette fois-ci du 19e siècle, Heinrich Schliemann, hein, Schliemann qui a redécouvert la ville de Troie, hein, la fameuse Troie de l'Iliade, hein, de l'Odyssée, décrite par Homère, hein, il a retrouvé cette ville, hein, située dans la Turquie actuelle, hein, mais personne n'y croyait. Hein, c'était quelque chose qui était complètement mythique, mystique. Eh ben, ça a eu lieu. Hein. De même, je lisais dans une chronique, un petit article récent là sur Internet, hier ou avant-hier, je crois, que les dernières fouilles qui ont été faites au Saint-Sépulcre, donc le tombeau du Christ, enfin, ou prétendu tombeau du Christ, en tout cas, à cet endroit-là, à Jérusalem, eh bien, ces fouilles qui viennent d'être faites ont démontré de façon extrêmement troublante, hein, que eh bien, le descriptif du tombeau d'origine, hein, faite par les croisés, hein, aux alentours du XIe siècle, eh bien, était parfaitement fidèle. Hein. C'est quand même extrêmement intéressant, puisque ce sont des lieux où on a reconstruit, reconstruit, reconstruit encore, hein, au fil des siècles. Hein. Donc, c'est quand même fortement intéressant et ça laisse pas mal de portes ouvertes, ce qui est, à mon avis, l'essentiel dans un travail ou une passion qu'on peut avoir pour l'histoire, c'est toujours d'essayer d'aborder les sujets, de les présenter toujours de la façon la plus objective possible et ensuite de laisser vos esprits courir et gambader, et peut-être d'être un jour des Indiana Jones du 21e siècle, pourquoi pas, qui retrouveront effectivement des trésors extraordinaires qui ne feront qu'embellir notre humanité, et pourquoi pas dans les Pyrénées. C'était Olivier Burette, histoire du soir. Ce soir, nous étions autour du Saint Graal des cathares et des recherches d'Otto-Rahn, dont on a un peu parlé. Nous nous retrouverons le jeudi 29 juin pour conclure le cycle donc septembre 2016, juin 2017, en parlant justement de l'instrumentalisation de toutes ces questions archéologiques par un des épisodes les plus sinistres et les plus, comment dire, effroyables de notre époque, hein, qu'a été la création de l'ordre noir de la SS, hein, qui est bien plus, hein, que le service, comment dire, de sécurité des dignitaires nazis, bien plus encore que les effroyables exécuteurs des massacres et de génocides juifs de la Seconde Guerre mondiale, par-dessus le marché, ont tenté d'établir une espèce de religion noire parallèle, obscure, hein, et vraiment tournée quand même vers, je crois franchement qu'on peut le dire, vers le mal absolu. On aura l'occasion d'en reparler la semaine, enfin pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, jeudi 29 juin. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Merci.